ラジオオカピオカピ
オカピservice du lundi au vendredi avec Jody Daniel Kachama.
オカピ。
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Comment lutter contre le phénomène école buissonnière? On en parle aujourd'hui avec Madame Dipo Mateta, les secrétaires exécutifs chargés de la mobilisation au sein de l'ONG IMAE, Young Men Association for Education. Madame, bonjour.
Bonjour, Monsieur Jésus.
Bienvenue dans cette émission. Merci. Des questions et préoccupations, composez déjà le 099-706-9941. Écrivez-nous également à service@radioocapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, comment assurer une bonne prise en charge des enfants trisomiques? On en parle avec le professeur Joachim Mukawebuel, psychopathologue. Et nous allons également recevoir Madame Yolande Foura, qui est auteure de l'ouvrage « Nema Bagunda, émeraude » avec son chromosome d'amour. Voilà. Ainsi présenter les menus de l'émission de ces jours. Pour participer, composez déjà le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. André Mongou à la mise en onde. Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi.
Radio Okapi clôture en beauté le mois de la femme. Dans une émission spéciale Okapi Service, ce vendredi 28 mars 2025, de 10h à 12h, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, en face du Palais du Peuple à Kinshasa. Association des femmes, étudiantes, élèves, femmes entrepreneurs, femmes maraîchères, et hommes genrés, rejoignez-nous dans ce programme pour de moments d'échange riches en couleurs sur les droits, l'égalité et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Retrouvez Jody Daniel Kachama et toute l'équipe d'Okapi Service dans une ambiance chaleureuse et inoubliable ce vendredi 28 mars 2025 de 10h à 12h au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, en face du Palais du Peuple à Kinshasa. Un rendez-vous à ne jamais rater et surtout quelle entrée est gratuite. Radio Okapi, encore plus près de vous pour vous rendre service.
Okapi.
Bienvenue encore une fois dans cette émission Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui du phénomène école buissonnière. Eh bien, vous savez, aller tous les jours à l'école n'enchante pas toujours certains élèves. Ils s'arrangent pour sécher les cours et ils vont s'amuser. D'autres se retrouvent en dehors des classes parce que l'école les a renvoyés pour non-paiement des frais scolaires. Pendant les heures de cours, on aperçoit les enfants en uniforme dans les divers points des jeux, des hasards, tels que Paris Foot, Winner, ainsi que dans les endroits où ils peuvent jouer au Nintendo. Certains vont jouer au football, d'autres vont dans les buvettes ou dans des endroits inappropriés. Alors que faire pour ne plus retrouver les enfants dans la rue pendant les heures de cours? Comment lutter contre le phénomène école buissonnière? Madame Dipo Mateta est notre invitée, elle est secrétaire exécutive chargée de la mobilisation au sein de l'ONG IMAE. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodé.
Alors, c'est quoi le phénomène école buissonnière?
Déjà, merci pour l'opportunité de parler de ces sujets importants qui contribuent à sensibiliser le bien fondé de l'éducation. De base, l'école buissonnière, c'est un phénomène qui date du Moyen-Âge, en fait. C'était beaucoup plus les professeurs qui donnaient les cours sous des arbres donc de buisson. C'est comme ça qu'on disait l'expression « faire l'école buissonnière ». Mais depuis un temps, c'est devenu tellement récurrent. Aujourd'hui, elle désigne le fait de sécher les cours délibérément et sans justification officielle. Je vous ai entendu tout à l'heure. C'est vrai que la raison majeure, d'après les élèves, on dit que c'est pour des raisons de exclusion, pour le non-paiement de frais scolaires.
Parce qu'ils n'ont pas payé les frais, voilà.
Oui, mais j'aimerais signaler aussi qu'il n'y a pas que ça comme raison. C'est vrai que c'est la raison majeure, mais il y a beaucoup de raisons. Au niveau scolaire, il y a des difficultés d'apprentissage. Les élèves n'arrivent pas à s'adapter. Il y a des problèmes de manque d'intérêt pour le cours. L'élève s'est dit, ces cours ne m'intéressent pas du tout. Je ne veux pas participer. Et
la
préfère...
tête de ce prof-là ne m'intéresse pas.
Justement, donc, le professeur peut engager. Lorsque le professionnel n'est pas engagé, ça entraîne également les élèves à faire des écoles buissonnières et les écoles qui n'y sont pas structurées. Il y a des élèves qui ne supportent pas le règlement au niveau des écoles et tout qu'on sort. Entre autres, il y a encore le problème de l'environnement familial. Ça, c'est très important. Lorsque l'environnement familial n'est pas bon, lorsqu'il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a le manque de suivi parental, il y a la précarité et il y a également l'influence de père. Vous devrez savoir qu'il y a ces élèves qui ont payé les frais. Il y a des élèves qui se retrouvent à l'extérieur, qui n'ont pas été exclus pour le non-paiement de frais, mais juste parce qu'ils ont été entraînés par
les amis.
Voilà. Il y a cette pression des amis, il y a les désirs de transgression, il y a cette recherche d'aventure, en fait, qui facilite également, qui cause également les écoles buissonnières.
Et est-ce que c'est fréquent chez nous ici
c'est
dans notre
école?
C'est
très fréquent. Déjà en venant ici, je vous signale que j'en ai vu plusieurs.
Ah bon? Vous avez retrouvé des élèves dans la rue?
Oui, dans mon quartier, en sortant, j'ai vu des élèves et j'étais quand même curieuse puisque je savais que je venais parler ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce que vous faites à l'extérieur à cette heure? Ils diront que nous avons été renvoyés pour le non-paiement de frais scolaires. Donc c'est très fréquent ici.
Et pourquoi ils ne rentrent pas directement à la maison?
Je le dis justement, il y a aussi un problème avec les familles, l'environnement familial en fait. Il n'y a pas de contrôle lorsque le parent n'arrive pas à contrôler. Déjà, un parent responsable doit avoir l'habitude de contrôler les cahiers de communication, le journal, et si on pouvait en parler. Est-ce que dans les écoles privées, c'est respecté? Est-ce que les journaux de classe, les cahiers de communication sont vraiment considérés dans certains établissements? Ça, c'est une question mise entre parenthèses. Par contre, dans des écoles strictes, dans des écoles... je ne vais pas citer les genres d'écoles, mais on les sait tous, qu'il y a des écoles qui assurent quand même l'éducation. Vous verrez que tout est inscrit régulièrement dans les cahiers de communication, dans le journal. Ça facilite aux parents de pouvoir contrôler, d'avoir un suivi là-dessus. Ce qui n'est pas le cas pour toutes les familles, malheureusement. Ouais. Lorsque déjà les parents n'est pas en mesure de contrôler la fréquentation scolaire de son élève de manière régulière, lorsque les parents n'essaient même pas faire un suivi particulier, voyez, ce qui facilite ces phénomènes école buissonnière.
Voilà. Et quand ces enfants sortent de l'école, où est-ce qu'ils vont généralement?
Vous l'aviez dit tout à l'heure et c'est bien connu. Soit ils sont dans des jeux de Paris Foot, dans des winners, ils sont par-ci par-là à gauche et à droite dans des jeux de hasard.
Les enfants sont attirés par les goûts du lucre.
Exactement.
L'argent.
Malheureusement, ça nous ramène toujours dans la case de départ. Donc il y a un sérieux problème, je pense, au niveau du gouvernement et au niveau de l'environnement familial. Puisque ces élèves, lorsqu'ils quittent l'école, ce n'est pas pour rentrer à la maison. Déjà, quand on dit école buissonnière, c'est l'effet de sécher, en fait. Oui. De ne pas aller à l'école de manière illégale, en fait. Vous allez dans une activité sans pour autant avoir une justification officielle. Tantôt, ils vont dans des dépits. Et les débuts de boissons ont l'habitude de chasser par peur d'être interpellés par la police. Et
ils
c'est
vont,
comme
ça. Est-ce qu'ils vont boire des boissons sucrées ou ils
non.
prennent de l'alcool?
Déjà, je vous signale que ça favorise l'alcoolisme. Et lorsqu'ils sortent de là, je vis une fois ici même à Gombe, j'étais en train de passer, l'enfant qui a fui l'école, je le vis dans un coin figé, il y avait un groupe d'élèves, ils étaient en train de fumer. Il y avait du tabac, il y avait tout ce qu'il y avait.
Et il y avait que des garçons, oui, il y avait des garçons et des filles.
Toujours, il y avait toujours en fait. Et je n'ai même pas eu la force de le réprimer parce que déjà par voir l'heure, je me suis dit, comment est-ce que vous allez oser? Je me suis dit,
des élèves de quelle classe? Ils peuvent être en quelle classe?
Le niveau secondaire. J'imagine que c'était entre la 7e et 8e et allant vers la 1e et 2e humanité, malheureusement.
En train de fumer.
Exactement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas une histoire. Par contre, je l'ai vu. C'était entre 10h et 11h. Qu'est-ce qu'un élève peut faire entre 10h et 11h tout autour?
Et pourquoi le responsable de ces lieux les a laissés fumer?
Mais aujourd'hui, je dirais que malheureusement, nous sommes dans un siècle où tout est déréglé. Hier, il était très facile de pouvoir appréhender un élève, un enfant, même s'il n'était pas le nôtre, puisque dans notre époque, on pouvait accepter le réprimande venant de la part même d'un étranger. Ça faisait partie de l'éducation. Aujourd'hui, malheureusement, on a peur de pouvoir interpeller. On a peur de réprimander les enfants d'autrui par peur d'avoir un manquement de respect, par peur d'être interpellé d'une manière en tout cas désagréable.
Pourquoi? Parce que ces enfants deviennent impolis, ils répondent de manière insolente.
Il n'y a pas que ça. Mais ce qui est pur, c'est également ce que vous venez de dire là. Soit l'enfant vous répond insolemment pour faire savoir clairement que vous n'êtes pas son parent, que vous n'êtes ni son père, ni sa mère, ni son grand frère. Et il y a le parent également qui encourage cela. Lorsque vous emmenez, hier, monsieur Jody, vous pourriez me voir en cours de route, en train de vagabonder, de faire l'école buissonnière. Vous aviez quand même ces pouvoirs-là de pouvoir me prendre. Dis pour viens, je te ramène chez vous à la maison. Et vous pourriez faire face à mes responsables et dire que voilà, elle n'est pas à l'école. Je l'ai appréhendée en train de boire n'importe quoi, en train de faire l'école buissonnière. Ça pouvait passer. Et sous votre yeux, ma mère serait peut-être capable de me frapper, de me chicoter pour me donner de l'éducation. Mais est-ce que c'est encore possible? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que l'éducation est vraiment de régler. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous n'aurez même pas la force de pouvoir prendre un enfant et le ramener à la maison. Déjà, il ne vous donne pas son adresse. Il ne se laisse pas faire. Il vous insulte, voire il peut même vous lancer des pierres. Hein, attention, vous ne faites pas attention, il peut même vous lancer des pierres. Il peut même crier à l'aide, au secours, genre comme si vous étiez en train de vouloir le kidnapper. Donc, c'est vraiment biaisé de ces points de vue.
Et c'est très grave, surtout pour les filles qui font l'école missionnaire et peuvent se retrouver avec des garçons, des hommes.
Et ils s'exposent, en fait. C'est une pratique avéissante qui expose les enfants à la débauche, à des accidents. Ils n'étalent pas encore de risque, malheureusement. Il n'y a pas seulement la consommation d'alcool, des drogues, mais aussi des stupéfiants. Malheureusement, ils n'étalent pas compte de dangers qu'ils courent en faisant l'école missionnaire. Or, c'est très dangereux et ça peut même entraîner la mort. Voyons les cas d'accidents, par exemple. Vous faites l'école buissonnière, les parents ne savent pas que vous êtes. Les parents ont aussi dit que vous êtes censé être à l'école à cet instant. Oui. Pourtant, vous n'y êtes pas. Et lorsqu'il vous arrive un malheur, on ne sait pas vous localiser, on ne sait pas déterminer qu'est-ce qui a été fait exactement et c'est compliqué.
Bien, nous parlons aujourd'hui du phénomène école buissonnière. Comment lutter efficacement contre cela? Olivier Ndoumba nous appelle de Kisangani et Patrick Saïdi, tous les deux sont dans la même ville. Des questions et préoccupations, composez les 099-706-99-41. Okapi. Bien, nous parlons de l'école buissonnière. Comment lutter contre cela? Olivier Ndoumba de Kisangani, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, la radio de la paix, bonjour à notre invité. Nous vous félicitons d'abord pour déjà des thématiques et surtout ça d'aujourd'hui. D'un point de vue face à ces phénomènes, comment peut-on lutter contre l'école visionnaire? Et à cet effet, je résume ça sur les divers points qui te suivent. C'est-à-dire, il y a à ce qu'on appelle une auto-observation. C'est-à-dire, c'est une question de regarder soi-même étant élève ou simplement avoir la conscience qui va susciter l'objectivité de leur parcours d'études. Parce que c'est pas quand même normal, à cette heure-là, les élèves puissent se trouver à l'intérieur de leur milieu d'études. Et il y a aussi un autre point que j'avais soulevé, c'était la responsabilité. Ça revient spécifiquement aux parents de bien vouloir prendre au sérieux leurs devoirs. Il y a certains parents, quasiment, sinon, les enfants sont plus chassés à l'école, mais il permet aux enfants de déploier. S'ils rentrent à l'école, ça coûte à leur donner de l'argent ou, l'achat des primes pour s'acquitter de ses devoirs. Mais c'est compliqué. Et pour acheter, une question qui revient aux autorités. Il y a certaines autorités scolaires qui se permettent de vouloir falsifier, c'est-à-dire créer des documents scolaires qui ne sont pas du tout dignes aux élèves. C'est-à-dire, eux aussi sont entrés et contribuer également à ces phénomènes de l'école missionnaire. Voilà ma petite contribution, ingénieur Olivier, depuis la ville de Kisangani.
Bien, merci Patrick beaucoup. Saïdi, vous êtes aussi à Kisangani, bonjour.
Bonjour, bonjour, cher Jody. C'est M. Blaise Saïd.
Blaise Saïd et un nom, Patrick voilà. Tati. Alors, quelle est la question?
Oui. Non, vraiment, je vais citer par quelques questions, mais néanmoins, je vais donner quand même ce que j'ai proposé comme les solutions. La lutte contre l'école buissonnière doit passer par une approche globale et bienveillante qui implique à la fois les élèves, les parents et l'ensemble des communautés éducatives. Donc, voici quelques pistes, chers Jody. Premièrement, renforcer la communication. C'est-à-dire ici, il est important de maintenir une bonne communication entre les parents, les enseignants et les élèves. Cela permet de repérer rapidement les signes de décrochage scolaire ou l'absentéisme et d'en comprendre les causes. Deuxièmement, c'est renforcer les mesures de sanction. Donc, lorsqu'il y a l'absentéisme devient récurrent, des sanctions peuvent être appliquées, mais elles doivent être équilibrées et accompagnées de solutions pour aider l'élève à se réintégrer dans le système scolaire. Il y a aussi comprendre les causes sous-jacentes. Il y a éliminer les obstacles financiers et matériels. Donc ici, il y a la situation de supprimer les coûts liés à l'école. Aujourd'hui, avec les frais scolaires, l'achat des fournitures scolaires, d'uniformes, ainsi de suite, donc ici, nous disons que non, écoute les âmes au bon côté, puisque l'école est devenue ces derniers temps comme une boutique, cher Jody. Donc, il y a le renforcement des politiques éducatives. Donc ici, nous avons mettre en place une politique d'assiduité. Donc, c'est-à-dire quoi? Le gouvernement et les autorités doivent mettre en œuvre les lois et les politiques d'assiduité scolaire, strictes et en collaboration avec les écoles et les familles pour garantir que les enfants fréquenteront l'école régulièrement.
D'accord.
Il y a aussi le suivi des absences.
Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup Blaise. On retient que ce qui est important, c'est surtout maintenir une bonne communication entre l'école et les parents, et c'est ça qui permet de bien suivre l'évolution des enfants et de lutter contre ces phénomènes. Merci Blaise. Depuis Kisangani, Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Bonjour à Blaise, bonjour à tout le monde. La première question, c'est de savoir la synergie entre la communication de famille et l'école. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Bon, ce que Blaise a dit, je peux contredire un tout petit peu, parce qu'aujourd'hui, je pense que les parents qui ont les moyens, ils ne veulent pas que ces enfants soient être éduqués d'une manière ou d'une autre. Et ils se croient qu'à la superficie de leurs moyens, les enfants ne peuvent jamais métamorphoser leur manière de penser, d'agir et d'être éduqués par les autres. Parce que quand on a l'argent, bon, les enfants doivent se comporter de n'importe quelle manière. On était en 2002-2003 où nous avons vu Matumo Norum faire jouer au football avec la taille basse de la culotte. Mais cela est devenu le mode de vie pour les élèves. Nous avons aujourd'hui le Kanga Dadi. Comment une école peut d'abord accepter ce genre de tenue? Un élève qui vient avec un pantalon cuillé, coincé, qui n'arrive pas au niveau des chaussures. Et pourtant, quand nous on était en pédagogie, du lundi au vendredi, on pouvait porter la gravate et d'autres tenues, on pouvait la porter samedi. Mais aujourd'hui, c'est grave. Je vous dis, buvez de l'alcool, prendre du cannabis pour les élèves. Mais je ne sais pas comprendre. Il y a certaines écoles, les écoles privées, où vous êtes là en tant que directeur chargé de la discipline. Mais vous trouvez un élève qui vit avec le cheveu, on ne sait pas dire. Et ses parents payent même pour ces cheveux-là. Vous comprenez un peu le niveau où nous sommes aujourd'hui. Et surtout que l'école publique n'existe pas, presque pas plutôt, ce sont des écoles privées que le business. C'est que chaque parent doit donner le mode de vie d'un élève à une école. Mais c'est grave.
Maintenant, Ismaël, d'après vous,
doit se faire pour vivre qu'on puisse récupérer la conscience de nos parents étudiés que 2 ans. Bon, ils étaient presque comme les docteurs aujourd'hui ou les professeurs. Mais aujourd'hui, ce comportement va de mal en pis parce que le ministère de l'Éducation a laissé ce genre de choses aux autres. Vous trouverez par exemple les liens de boire de l'alcool tout proche de l'école. Mais qu'est-ce que les élèves vont faire quand ils ont un temps de même petit temps là? Ils vont aller boire et fumer, puis rentrer, troubler même les enseignants. Ils ont l'argent, ils donnent à l'enseignant, mais l'enseignant ne pourrait rien faire. Mais c'est ça là où nous sommes arrivés, merci.
Merci beaucoup. Malonga, vous êtes à Bandundouville, nous parlons du phénomène école buissonnière. Comment y mettre fin? Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Monsieur Malonga de Bandundouville? Bonjour.
Bonjour, bonjour mon frère Jody, et bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment ici. Merci beaucoup. Nous avons étudié, c'était si intéressant, si une récitation école buissonnière comme ça. Ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup vraiment édifié dans notre état.
Est-ce que vous vous souvenez encore de cette récitation?
Oui, je me souvenais, mais pour la réciter comme il faut encore, en tout cas, je peux...
Vous n'avez plus.
Mais ça m'avait, en tout cas, ça m'avait beaucoup édifié, même jusqu'à présent, c'est ce que je répète à mes enfants. Mais aujourd'hui, ce que mes confrères viennent de dire là-bas, en tout cas, c'est ça. Raison pour laquelle je plaire Mobutu. La politique de Mobutu, malgré nous l'accusons qu'il était ceci, il était ceci, mais sur le plan éducationnel, sur le plan aussi civisme, en tout cas Mobutu a vécu cette nation. Puisqu'à cette période-là, aux heures du cours, il y avait des directeurs, il y avait les élèves seulement qui étaient nommés dans chaque établissement pour surveiller d'autres élèves. Celui qui se trouve à l'extérieur, en tout cas, il doit être sévèrement puni, sévèrement s'il vous plaît, sans intervention des parents. Mais aujourd'hui, si un enseignant frappe un enfant, il va être vraiment au tribunal pour être jugé avec les parents de ses enfants. C'est quelle éducation? Ça, en tout cas, c'est tuer l'éducation. C'est tuer l'éducation. C'est pour ça que les écoles commencent à laisser les enfants comme ça. Puisque eux aussi, ils sont les humains, hein. Ils peuvent se protéger, hein. Il y a des parents qui disent des mots vraiment morteurs à ces enseignants. Comme vous aviez frappé mon enfant, en tout cas, vous allez voir. Comment est-ce que cet enseignant encore va veiller à l'éducation de l'enfant? Ça, il faut aussi, le ministère de l'EPSP doit aussi veiller sur ça. Il doit encore rêver.
Malonga, est-ce que là-bas à Bandundouville, il y a aussi ce phénomène, existe, il y a beaucoup d'élèves qui font l'école buissonnière?
Beaucoup, mon frère. Puisque il a mon confrère qui vient de dire là-bas qu'il faut une bonne communication. Oui, moi j'avais acheté, ici on achète les cartes de communication. Mais depuis que j'ai acheté ça, l'année est arrivée à sa fin.
Oui.
Mais je n'ai jamais vu même une mention dans un cahier de communication que moi-même j'ai acheté de mes enfants. Qu'il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Non. Alors, à quoi servent ces cahiers-là? Donc les enfants font il faut ce qu'ils veulent seulement là-bas.
Ils sont abandonnés à eux-mêmes.
Il n'y a aucune surveillance.
Oui.
Or, nous sommes partagés. Nous sommes les parents ici au foyer à la maison. Nous achetons des enfants. Mais tant que les enfants sont à l'école, ils sont immédiatement à la responsabilité des établissements. Mais les établissements laissent les enfants en divagation comme ça. Hein? Vous voyez comment
c'est? Mais il y a aussi cette question de chasser les enfants, de les renvoyer parce qu'ils n'ont pas payé les frais. Alors, des enfants sont abandonnés, ils peuvent se retrouver dans la rue comme ça. Ils ne rentrent pas directement à la maison.
Aujourd'hui, j'ai dit, vous êtes comme vous m'avez vu. Aujourd'hui, j'ai une enfant comme ça, ma jeune fille, elle est en sixième primaire, elle vient d'être chassée. Et elle a la période de l'examen. Elle vient, heureusement, moi, je n'étais pas encore parti au service. Bon, je lui donne pour 60 000. Je donne ça. J'ai dit, vous voyez, pour vous chasser, c'est bien. Mais pour me communiquer ce que vous êtes en train de faire là-bas, il ne me communique pas. Bon, ça va, c'est Dieu lui-même qui reste là.
Merci, merci beaucoup, Malonga, depuis Bandundouville. D'accord, merci beaucoup.
C'est grave, mon frère.
Oui, on comprend. On va donner la parole à Patty Maïmba, qui est aussi à Bandundouville. Patty, bonjour.
Oui, bonjour, cher Jody. Bonjour à tous ceux qui m'ont précédé.
Oui.
Ah, l'école buissonnière.
L'école buissonnière.
Je ne connais pas si ce sont les élèves qui sont buissonnières, ce sont les écoles qui sont buissonnières, ou ce sont les parents qui sont eux-mêmes buissonniers. Ce sont là encore des questions qu'on peut se poser.
Oui.
Mais c'est comme les confrères Madame venait de dire là, et qui avait appris au temps de Mobutu. Bon, nous, malheureusement, on ne connaît pas ce temps-là de Mobutu. Mais le constat que nous faisons, ou que je fais aussi, il y a une école tout près de là où je suis sur marché, c'est derrière la mairie. Il y a une école ici. À Bandoumbeville, ici, bien sûr. Dans l'enceinte de cette école, il y a, je ne sais pas si on appelle ça compagnie, ce sont les agences, les points d'Engengue, les compagnies que Kabila et tu sais qui nous avons amené ici.
C'est quelle compagnie ça?
Il y en a
ça,
là, dans l'enceinte de l'école.
C'est quoi? Allez, vous voulez parler de la loterie?
La loterie, les jeux de hasard.
Les jeux de hasard. Ah ouais, ça s'appelle aussi Ngenge. Hein.
Oui.
Ça, c'est
Ngenge, Paris Sportif, quelque chose comme ça.
Ok.
Oui. On a implanté ça dans une école.
Au sein d'une école.
Derrière la mairie. Je dis bien dans l'enceinte, quand je parle ici, ils nous suivent. À la mairie, là, ils mettent la radio, ils nous suivent.
Ça, c'est pour distraire les enseignants et les enfants.
Histoire, là. Bon, papa, je vous dis, et les enseignants, les préfets, et les policiers qui sont à la mairie, et les agents de la mairie, et les élèves en uniforme, ils sont là, en train de jouer à ces jeux-là de Ngenge. Quand nous passons cette émission, ils sont là. Tout près, en face du gouvernorat, il y a encore une école là. Allô?
Oui, on vous écoute.
Allô?
Oui, 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 on vous écoute, Patty.
Allô?
Oui, allô?
Allô?
Désolé, on vous entend, mais apparemment, il ne nous entend plus. Désolé, Patty, on va prendre Moïse. Depuis...
Vous me suivez?
Oui, 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 on vous entend très bien. Allô? Désolé. Moïse, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi Kachama, bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport à ces phénomènes école boussonnière?
Oui, je voulais juste demander à l'invité de nous donner les caractéristiques d'une école boussonnière. Deuxièmement, je voulais juste demander encore à monsieur l'invité, à madame Pito, de nous donner, et plutôt de nous dire quel est le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État à jouer à ces écoles missionnaires? Merci beaucoup, monsieur.
Bien, merci Moïse de Lubumbashi. Madame Dipo Mateta, vous avez la parole.
Ok, voilà. Eh bien, par rapport aux caractéristiques d'une école missionnaire, déjà, je crois, je le dis d'entrée de jeu, ce qui désigne le fait de sécher les cours délibérément sans justification officielle. Mmh. Le fait pour un élève de ne pas se retrouver dans une salle de classe ou dans l'enceinte de son établissement scolaire pendant les heures de cours constitue une école visionnaire. Donc je vais encore me répéter pour mieux vous éclairer. Mm-hmm. Le fait que pendant les heures de cours, soit vous êtes avant-midi, c'est bien prescrit de 7h à 12h30 ou à 13h, et pour ces deux après-midi de 12h30 à 17h. Si vous êtes de la vacation matin par exemple, et qu'entre 7h et 12h,
vous n'êtes pas à l'école.
Voilà, on ne vous retrouve pas dans l'enceinte de votre établissement ou dans la salle de classe sans aucune justification valable, c'est déjà une école visionnaire.
Entre-temps, il n'est pas à la maison.
Exactement.
Il n'est ni à la maison, ni à l'école.
On peut comprendre le passation, c'est-à-dire que vous soyez peut-être exclu, que vous soyez exclu pour une raison ou une autre, puisqu'il existe aussi des renvois, non pas seulement pour de frais scolaires. Je vois dans des établissements catholiques, par exemple, on renvoie lorsque l'enfant s'est méconduit, en fait. Mmh. On peut vous renvoyer, ça c'est comprendre. Mais dès qu'on vous renvoie, vous êtes censé retourner à la maison.
Immédiatement.
Et non aller vagabonder, et on ne peut pas vous retrouver, en fait. Le fait qu'on vous retrouve dans des débits de boissons, dans des staffs d'Ngenge, comme l'a dit notre auditeur tout à l'heure, voilà, oui. Qu'on vous retrouve dans des lieux qui ne sont pas appropriés et surtout en uniforme. Ça aussi, c'est une caractéristique qu'il faut mentionner. Mmh. Lorsque vous êtes surtout en uniforme, ça constitue l'école missionnaire.
Le vagabondage des élèves.
Exactement.
Mmh. Et voilà.
Et pour le rôle de l'État qu'il voulait savoir, je pense que le gouvernement a pour rôle de garantir l'accès à l'éducation. C'est-à-dire que l'éducation, c'est un droit, c'est pas un privilège. Ça, c'est une chose que nous devons retenir. De base, c'est un droit pour tout enfant. L'enfant a droit à l'éducation. ça ne devrait pas être un privilège. Donc, l'État, dans son rôle, doit garantir l'accès à l'éducation au travers de bourses, des aides financières. Il doit mettre un fonds national pour l'éducation. Il doit s'aligner pour des suppressions de certains frais. Puisque si on essaie un peu de faire l'analyse, on se rendra compte que la plupart des enfants font l'école buissonnière parce qu'ils ont été renvoyés pour de frais scolaires.
Oui, mais je pense qu'on devrait interdire cette pratique de chasser les enfants.
Si, parce que l'école. Nous les disons d'ailleurs, vous savez, dans notre lutte, justement, Imaye ne s'arrête pas pour cela. Mmh. Dans notre campagne École Isa Mombongote, c'est justement parce que l'État est censé prendre en charge cette question de l'éducation. L'éducation, l'aspect financier de l'éducation, en fait, doit être pris en charge par l'État et non par de ménages. Sinon, on assisterait à tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Lorsque l'État ne sait pas prendre en charge l'aspect financier de l'éducation, on a pour conséquence le boutique au lieu d'avoir des écoles.
Parce que quand on chasse un enfant parce qu'il n'a pas payé les frais, est-ce que l'école prend le soin d'appeler les parents pour dire non, nous venons de renvoyer l'enfant?
Malheureusement.
Parce que il n'a pas payé.
Malheureusement. Ça ne s'est fait pas. C'est très rare de voir ces cas-là. Et pire, on peut encore supporter dans certains établissements dans certains établissements qui sont bien réputés, et au moins lorsqu'ils renvoient les élèves, ils ont l'habitude de retenir dans des stands et autres. Par contre, dans des écoles privées, c'est comme dans un poulet, c'est comme dans le marché. On vous chasse. En fait, c'est une boutique, ce n'est pas une école en réalité. Oui. Ils font de la marchandisation en fait dans les établissements, puisqu'ils sont là pour de l'argent, puisqu'ils vendent de l'éducation. Lorsque vous ne payez pas, vous êtes à la porte, et c'est de manière régulée, c'est tout le jour que vous êtes à la porte, et c'est d'où nous avons la responsabilité de l'État. L'État doit vraiment, vraiment, vraiment s'aligner dans cette mesure-là. Et il n'y a pas que l'État, puisque si on veut vraiment résoudre ces problèmes pour combattre l'école buissonnière, il faut une conjugaison d'efforts par des acteurs de toutes les institutions. Il n'y a pas que les écoles. D'abord, nous avons au sommet le ministère de l'Éducation, bien sûr, qui représente l'État. Il y a les parents qui doivent jouer un rôle important parce qu'ils doivent vérifier les journaux. Mais là, tout à l'heure, malheureusement, on vient encore de découvrir que les journaux sont muets parce que les écoles ne communiquent pas.
Ne communiquent pas avec les
parents.
Pourtant,
les écoles devraient communiquer. Ça, c'est une responsabilité des établissements scolaires. Les écoles doivent savoir communiquer aux parents. C'est à ça que nous servent les journaux et les cahiers de communication. Sinon, pourquoi ils insistent sur la vente de ces journaux, de ces cahiers de communication au début de l'année?
Et les parents aussi doivent vérifier régulièrement les cahiers de communication de leurs enfants.
C'est le rôle de l'école, en fait. Les parents.
Les parents,
donc l'école doit appeler et signaler. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si ce sont les unités qui leur manquent, mais je pense que pour remédier à ces fléaux, ils doivent tenir compte des appels, ne serait-ce que téléphoner, pour signaler, voilà que votre enfant est renvoyé pour n'avoir pas payé le frais, pour avoir commis un forfait, etc. Du moins, ça sécurise l'enfant en même temps. En parlant de l'école buissonnière, on ne doit pas seulement voir les vagabonds. Voyons en fait tous les dangers que court l'enfant lorsqu'il est hors de l'établissement scolaire et en dehors de la maison.
Il peut y avoir des dangers d'enlèvement.
Il n'y a pas des surveillants, en fait, qui va surveiller, oui. Et la police je sais pas, en fait, la police devrait aussi jouer le rôle de brigade. En vrai, la police devrait aussi interpeller dans le rôle de l'État. Je pense qu'il faut une institution comme ça. L'école doit savoir, en fait, la police doit savoir réprimander. Lorsqu'on voit un enfant, un élève
en uniforme,
qui n'est en dehors de la maison ou de l'établissement pendant les heures des cours, je pense que la police doit réprimer. On parle de quelle police? Ça aussi, c'est une question que je préfère mettre en parenthèse.
Bien, alors on va accueillir d'autres auditeurs. Il y a Thomas de Kisangani, Jean-Arthur de Kinshasa et Elvis de Kinshasa. Nous parlons de l'école buissonnière, comment lutter contre ces phénomènes. Appelez au 09 706 99 41.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Parole aux auditeurs.
Bien, nous parlons du phénomène école buissonnière aujourd'hui, comment lutter contre cela. Thomas, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité et tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, quelle est votre question, Thomas?
Jeudi, l'école buissonnière, tous ce sont des phénomènes entiers.
Allô? Désolé, Thomas. Oui, désolé, on vous capte pas très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être bouger?
Ça va maintenant?
Oui, maintenant ça va, allez-y.
Ça va?
Oui, oui, ça va mieux, on vous écoute.
Je vais faire là, monsieur, je dis, être pas. Ma personne ne m'a pas individué.
Ah, oh là là,
des élèves en classe. Cette pratique nuit non seulement à la réussite scolaire des élèves au CNE, mais également, monsieur, je dis, ça compromet également leur avenir. Et donc, monsieur, je dis, il est essentiel de mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre ces phénomènes-là, mais aussi garantir à chaque enfant, en tout cas, l'accès à l'éducation. Maintenant, la question est de savoir comment on peut remédier à ça. Monsieur Jody, pour lutter contre, en tout cas, ce phénomène-là, je pense, monsieur Jody, il est nécessaire de sensibiliser les élèves. Il y a que la sensibilisation des élèves, mais également des parents et des enseignants sur les portards, c'est en tout cas, l'importance surtout de la fréquentation régulière au cours, monsieur Jody. C'est très important. La sensibilisation, donc, au Sénat, d'une part, ce sont les thèmes, en tout cas, après ça, là, de l'enseignement, mais aussi les parents doivent être là, mais également les
oui. Désolé, Thomas, la communication se dégrade. Désolé, on va prendre à Jean-Arthur de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Jean-Arthur.
Merci beaucoup. Pour terminer ce phénomène, premièrement, il faut que l'État congolais prenne les écoles et les élèves en charge. Là, c'est un. D'aider. Les écoles aussi favorisent l'école buissonnière, puisqu'il y a d'autres écoles privées qui chassent les élèves tous les jours. Et puis, on met un système de contrôleurs à la porte qui contrôle les élèves, qui les chassent tous les jours. Alors, si l'enfant se retrouve, l'enfant est venu à l'école, il n'a pas étudié, vous renvoyez l'enfant. Et puis l'enfant, au lieu de rentrer à la maison, il n'y a pas d'électricité à la maison, l'enfant préfère rester dans la rue avec ses amis. Alors, c'est pourquoi l'État doit bien contrôler, doit bien prendre en charge pour prendre fin à ce phénomène. Puisqu'il y a d'autres promoteurs ou responsables des écoles privées. Et leur école, ce sont des commerces. Comme Imaïe, je suis heureux puisque la dame vient de dire le rôle d'Imaïe, c'est de dénoncer tous ces effets-là. Puisque école est à mon bon côté. Imaïe dit tous les jours école est à mon bon côté. Alors je suis très content pour que l'État puisse prendre en charge l'école, prendre en charge aussi les parents. Que l'État puisse contrôler pour qu'à l'école, qu'on ne puisse pas chasser les enfants. Si on chasse les enfants, à la maison, il n'y a pas du courant, à la maison, il n'y a pas à manger, maman n'est pas là, papa n'est pas là, l'enfant va rester à la rue. Maman rentre à 22h, papa rentre à 23h, alors qui peut contrôler les cahiers des enfants? Merci.
Bien, merci Jean-Arthur. Elvis de Kinshasa, bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, et bonjour aussi à l'invité. Je voulais dire ceci, que c'est une question où la responsabilité est partagée. Je peux dire ça. Dans quel sens? C'est parce que la majorité des enfants que nous avons aujourd'hui n'ont pas aussi la volonté, ou s'ils n'ont pas aussi, non plus ce souci-là d'étudier. Parce qu'ici, avec nous, je peux dire à l'école que nous avons, parce que nous sommes en face de l'école Batembe, vous allez vous rendre compte que ça arrive des fois, même si les élèves ont soit étudié, les autres sont toujours à l'extérieur. Ils n'ont pas envie. Vous allez voir la majorité des enfants qui se tiennent dans la rue avec les émissions, vous allez comprendre. Tonton, il est quelle heure, hein? Tonton, il est, c'est-à-dire, il demande seulement l'heure à tel, dès qu'il va rentrer à la maison, il rentre seulement en temps fixe. Et de deux, la responsabilité que je voulais partager aussi pour les enseignants, avec quoi? Quand les enseignants sont dans l'impayement, par exemple, pour ceux qui sont dans l'école privée, ils sont dans l'impayement, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'enseignant va seulement écrire un titre au tableau, ou il va seulement écrire une copie au tableau, ou il l'insère seulement. Et aussi que les périodes soient fait dépasser. Oui, dans les écoles secondaires, peut-être nous avons enseigné, un enseignant a peut-être 50 minutes ou 45. Vous allez vous retrouver qu'il a, il n'a qu'une leçon qu'il a, la leçon qu'il a qui est écrite au tableau. Et il n'avance pas, il n'enseigne pas. Et lorsque les enfants aussi sont dégoûtés de cela, on n'avance pas. Les enfants aussi peuvent être découragés à tel point que la majorité des enfants aujourd'hui n'ont pas encore envie d'étudier ou envie de continuer à étudier. C'est pourquoi même ici, on a trouvé que la majorité des enfants de 15 ans, 16 ans, veulent voir que les enfants, dans leur sac, ils ont deux habits. Il y a l'uniforme et il y a un habit qui doit aussi changer. Même au niveau des souliers, on a trouvé qu'ils ont aussi des sandales et aussi les souliers qui sont de l'école. Vous voyez? C'est comme ça. Alors, ça peut arriver que si l'État aussi prend ses habitudes, par exemple, de contrôler les écoles, arrêter tous les enfants qui peuvent trouver aux endroits des écoles. Moi, je peux vous dire, j'ai au moins deux ou trois écoles. Si vous rendez à l'école Batébé, ici à Matébé, à l'école à Nunga, il n'y a aucune minute où vous allez retrouver, il n'y a pas d'enfants à l'extérieur. Mais il y a une porte. Il y a la sentinelle, il y a un disciplinaire. Mais pourquoi ces enfants n'arrivent pas à se soumettre? Est-ce que plutôt dire que ce sont les enfants qui sont mal éduqués de la maison, où c'est l'école qui se trouve maintenant et à l'incapacité de pouvoir recadrer ses enfants. Parce qu'on envoie les enfants à l'école pour qu'ils soient recadrés. On peut arriver dans une école où il n'y a pas une clôture, il n'y a pas une porte. Ou dans une salle de classe où le matin c'est l'école, le soir c'est l'église, où c'est autre activité, où la barre se passe là-bas. Alors vous comprenez que si l'État prenait un peu à bras le corps les conditions dans lesquelles les enfants étudient, où ils peuvent remédier, même si les écoles privées, ils mettent la main pour voir pour qu'une école puisse fonctionner, il faut qu'ils gratuissent certaines conditions pareilles. Mais même s'ils peuvent dire ça, mais la corruption aide à tous les niveaux. Même si, par exemple, dans une école où il n'y a pas une bibliothèque, est-ce qu'une telle école peut-elle fonctionner? Mais les spectateurs vont arriver là-bas, on va se malheur dire, non, vous voyez, on est comme ça, on est au Congo, comme ça. Ils enferment, voire même jusqu'au niveau des dossiers des élèves. Lorsqu'on vient récupérer les dossiers, il y a des élèves qui ont fait plus de 4 ou 5 écoles où le dossier n'est pas complet. L'inspecteur, il va voir seulement, on va lui donner une enveloppe, l'inspecteur rentre, il passe tous les dossiers, il va avec. Alors, c'est à partager. Et les parents, et l'école, et l'État au Congolais aussi doivent revoir cette question. Voilà ce que je voulais dire en un mot.
D'accord, merci beaucoup. On va reprendre Thomas, qui est de nouveau en ligne depuis Kisangani. Bonjour Thomas.
Bonjour monsieur Jody. Et bonjour à l'invité. Je disais ceci, parce oui. qu'avant il y avait un petit souci là de connexion. Je disais, monsieur, je dis ce phénomène-là, c'est vraiment très préoccupant. Et face à ça, souvent c'est manifeste parce qu'il y a trop d'absence justifiée des élèves en classe. Et cette pratique, je disais tantôt, monsieur, je dis, ça nuit non seulement à la réussite de ces enfants-là, mais également. Ça compromet leur avenir, parce que lorsque quelqu'un n'arrive pas à bien étudier, c'est vraiment parce que l'éducation, c'est un secteur clé pour le développement même du pays. Mais lorsque vous voyez que la vie ou l'aspect de l'éducation n'est pas pris au sérieux, là, l'école boussonnée, tout ça, vous voyez que ça compromet également l'avenir du pays, parce que l'avenir du pays, ce sont les élèves. Et lorsque c'est l'éducation, en fait, et face à ça, pour lutter contre, en tout cas, ce phénomène-là, monsieur, je vous dis, la sensibilisation des enfants, mais également des parents. C'est-à-dire, moi je prends ça, tout le monde doit s'expliquer. C'est-à-dire, les parents sont là, les enfants, mais également les enseignants ont leur part de responsabilité dans ça. Et par ailleurs, monsieur Jody, on doit aussi renforcer en tout cas le suivi des absences des élèves en mettant en place surtout des systèmes de contrôle efficaces. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'un élève ou un écolier peut s'absenter seulement comme ça. Ça, il faut qu'il y ait des motifs ou des raisons qui font en sorte qu'un enfant ou un écolier n'arrive pas à venir au cours. On doit savoir ça. Et ça, le suivi là doit être, le contrôle doit être, on doit mettre en tout cas un système de contrôle en tout cas très efficace. Si tous les établissements scolaires peuvent restaurer des procédures de vérification des absences. Je crois qu'il y a des registres d'appel. Lorsque quelqu'un est absent, on doit appeler les parents pour connaître quel est le problème qui s'est posé pour que ton enfant n'arrive pas à être à l'école. Mais cependant, monsieur Jody, ce qui est important également, c'est d'identifier les causes. Parce que c'est bon, les phénomènes-là arrivent. Quelles sont en tout cas les causes qui est à la base de ces phénomènes-là? Et pour mettre des solutions face à ça, peut-être ce sont des situations familiales ou sociales ou psychologiques peut pousser également les élèves à sécher les cours. Est-ce qu'on arrive à prendre tous ces aspects-là, identifier les causes qu'il faut à ce que peut-être les enfants n'arrivent pas à venir. Peut-être ce sont des situations de la famille, tout ça, il y a beaucoup de choses de la famille. Psychologiquement, la femme peut être traumatisée. Tout ça sont des causes qu'il faut attendre que peut-être ça peut pousser un enfant à ne pas venir au cours ou à sécher carrément le cours. Et face à ça, il est donc important, monsieur, de promouvoir un climat positif.
D'accord.
Pour
merci la beaucoup. Bienveillance. Merci.
Et quand cela retient, j'ai quelques préoccupations, monsieur, je dis, à poser, à l'éviter.
Rapidement, parce que les autres attendent.
Merci beaucoup. Quels sont les facteurs qui favorisent l'école buissonnière? Je pose cette question. Et la deuxième question, monsieur, je dis, quels sont les outils et les dispositifs mis en place, parce que je pose ça à l'éviter. Madame l'éviter, quels sont les outils et les dispositifs mis en place par les établissements scolaires pour lutter contre ce phénomène-là? C'est pas ça mes deux petites préoccupations, monsieur, aujourd'hui.
Merci beaucoup. Ingénieur Liévin, vous êtes à Loupatapata. Bonjour.
Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre question?
Bon. La première préoccupation, d'ailleurs, merci beaucoup pour la thématique. Le phénomène école buissonnière, c'est un phénomène qui est actuellement visible. Et surtout, les écoles sont dans les zones rurales. Ma préoccupation, ma première question est celle de savoir qui favorise ce phénomène-là. Et en essayant de répondre à cette question-là, je trouve que la responsabilité est partagée. D'une part, l'État congolais, donc le gouvernement devrait mettre en place des mesures pour contraindre ceux qui ouvrent peut-être ceux qui œuvrent dans les différents points de jeu au hasard pendant les heures de cours. Et d'une autre part, les chefs d'établissement, les enseignants doivent aussi s'assumer pour empêcher que les enfants ne puissent pas sortir de l'école pendant les heures de cours. Je me demande comment les enfants peuvent sortir de l'école pendant les heures de cours. Peut-être parce que les enfants se sentent inoccupés quand ils ne sont pas occupés, quand ils ne sont pas bien encadrés, ils fuient les cours. Peut-être c'est parce qu'ils n'aiment pas les professeurs, ils n'aiment pas les cours. Telle période, c'est tel professeur qui doit intervenir, mais comme ce professeur-là ne se comporte pas bien, n'enseigne pas bien, les enfants sont parfois peut-être appelés à fuir pour aller dans les endroits de vie. Donc, pour moi, il faudrait que l'État congolais s'assume. Et d'une autre part, les établissements, donc les chefs d'établissement doivent aussi s'assumer pour empêcher que ce phénomène ne batte plus encore record. Merci.
Bien, merci. Madame Dipo Mateta El Rofeka, vous avez suivi toutes les préoccupations des auditeurs. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
D'abord, pour le monsieur qui a demandé, je vous salue, le facteur qui favorise l'école buissonnière, je crois que je l'ai dit tout au début. Je pense que vous ne nous avez pas suivi. Je parle de facteurs comme le problème scolaire, où il y a eu la difficulté d'apprentissage, le manque d'intérêt pour le cours, le professeur peu engagé. Je parle également d'un deuxième facteur qui était l'environnement familial difficile, où il y a des conflits familiaux, de manque de suivi parental, et j'ai parlé de la précarité. En troisième lieu, comme facteur, je parlais de l'influence de père, où il s'agissait de pression des amis, de désir de transgression et de besoin de liberté. On voit l'élève qui est à la recherche de l'aventure, d'envie de s'échapper à la routine scolaire. Et en dernier facteur, nous avions mentionné ce qui était d'ailleurs le facteur majeur qui est très récurrent, l'exclusion pour le non-paiement de frais. Donc, selon les facteurs qu'on a énumérés tout au début de notre mission.
Tout à fait.
Et il a également demandé quels sont les outils ou dispositifs mis en place pour les établissements scolaires, question du remédier. Je pense que c'est également une solution. Pour les écoles, j'estime qu'ils ont pour rôle de ne pas exclure, mais d'accompagner. Donc, comme je le dis et je le répète encore, école Eza, mon bon goûté. École Eza,
ici, qu'on arrête de chasser les enfants.
Voilà, puisqu'en fait, les problèmes, ce n'est pas seulement un problème du danger qu'on peut voir aujourd'hui. Ça affecte également le parcours scolaire de l'élève, en fait. Et pour conséquence, ça peut avoir des conséquences à long terme. Aujourd'hui, on ne le voit pas. L'élève qui sèche le cours 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois, il manque en fait des notions de base qu'il devrait acquérir à l'école. Il y a certaines notions qui, lorsqu'on n'apprend pas ça à l'école, c'est fini. Et vous verrez plus tard cet élève dire « Ah, Moukoulobatang, ça, le Kouaranga, Nazalakati. » Aujourd'hui, c'est
devenu... Mais les parents doivent être de plus en plus regardants.
Voilà. Et comme conséquence, nous aurons des dirigeants incompétents. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas eu à participer à certains cours, ils n'ont pas suivi leur cursus scolaire comme il fallait. Et donc, je disais qu'il les écoles ont pour rôle de ne pas exclure, mais d'accompagner. Ils doivent arrêter les exclusions et privilégier le dialogue. Non seulement ça, les écoles doivent faciliter le paiement échelonné. Donc, ils doivent accepter les systèmes d'acompte, de paiement qui sont vraiment genre, au lieu de payer les 300 dollars du coup, 50, 100, 20, 10, ils doivent accepter ça en fait.
Oui.
Ils doivent aussi créer un fonds de solidarité scolaire et offrir des opportunités de frais pour les étudiants en fait. L'école ne doit pas seulement attendre que les parents viennent payer. Ils doivent aussi créer des choses. Et pour aller plus loin, je dirais qu'on a un grand rôle à jouer aussi avec le média. Oui. La société doit jouer un grand rôle, celui de sensibiliser.
Sensibiliser quelqu'un,
c'est très
en a
important,
parlé d'ailleurs.
Oui, c'est très important de sensibiliser parce que si nous arrivons à lancer des campagnes, je ne dis pas qu'il n'y ait que la campagne École des Hommes en Beauté. Mmh. Il y a plusieurs campagnes comme ça. On peut lancer des campagnes comme ça, en fait, pour décourager ces systèmes d'exclusion. Je pense que si on arrive à sensibiliser, la société pourra prendre conscience de l'importance d'aider les enfants à rester à l'école. Puisque un enfant exclu de l'école aujourd'hui, c'est un avenir brisé de demain. Il faut vraiment tenir compte de cela.
Mmh.
Et les familles, je répète encore, qu'ils ont pour eux de soutenir l'éducation des enfants. Les familles doivent être aussi sensibilisées. Il y a certains parents qui apparemment ne comprennent pas l'importance de l'éducation. C'est très important de passer par les bancs de l'école. C'est vrai que tout le monde qui a réussi dans la vie n'est pas forcément passé par là. Mais j'estime que c'est très important puisque l'éducation, c'est la base. C'est la base de la société. Mmh. Éduquer, donc, en fait, lorsqu'on éduque aujourd'hui, ce n'est pas, l'éducation a pour conséquence l'avenir du demain, en fait, la réussite de l'avenir du demain. Donc, voilà un peu.
Bien, Madame Dipo Mateta El Rofeka, secrétaire exécutive chargée de la mobilisation au sein de l'ONG IMAE. Merci et à la prochaine.
Merci.
l'accepter.